Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour les débats d'actualité. Alors ce matin, Thomas Porte, conseiller politique, auteur de Au cœur de la haine, qui est paru aux éditions Arcane 17. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, bonjour à vous. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Et Michel Taube, qui est fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bon, on tourne un petit peu en rond dans les sujets, on va quand même essayer de vous intéresser, mais c'est vrai que on n'en sort pas beaucoup du Covid, la dette qui va payer, on vient de l'évoquer un petit peu avec Marc Touati, le moral des Français qui est au plus bas, et puis Jean Castex qui va s'exprimer là dans quelques instants et faire le service après-vente d'Emmanuel Macron. On va évoquer également les malades, ceux qui sont malades, qu'il va falloir contraindre à l'isolement. Donc bonjour à tous, petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Michel, commençons avec vous. Michel Taube.
Moi, c'était un coup de cœur et un coup de cœur, ouais, avec un petit coup de gueule aussi. Mais Maradona, évidemment, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de Maradona, qui était Dieu n'est pas mort, comme l'a titré l'équipe, même si Nietzsche l'avait annoncé il y a déjà longtemps. Mais effectivement, c'était un des rois du foot, qui est le sport le plus populaire et le plus universel. Et la vie de Maradona est tellement représentative et symptomatique de ce monde de folie dans lequel on vit, où pour un ballon peuvent se brasser des milliards d'euros, des foules entières, des histoires absolument passionnantes, des excès comme Maradona a pu en connaître. Mais bon, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer ce fait universel de la mort de Dieu, comme l'a dit l'équipe.
Oui, bon. Michel, avec ta permission, c'est Jacques Maire qui t'appelle. Oui. Juste pour te dire que c'est Panem et Circenses, hein, il n'y a rien de bien nouveau.
Ouais, et moi, je regrette, des jeux.
Franchement, la financiarisation du foot et du sport en général, c'est quand même problématique. Mais bon, je peux comprendre. De toute façon, aujourd'hui, il y a deux choses qui marchent. Le foot et bien sûr, on va dire un mot sur la force des journalistes qui font l'opinion publique.
Non, oui, mais là, c'est le peuple argentin, c'est les passionnés de foot.
Oui, je vous cite juste le Gorafi. Oui. Vous savez, le Gorafi, qui est un site parodique, qui dit « En hommage à Maradona, la ville de Naples suspend le trafic de drogue pendant 2 heures ». Voilà, petit trait du monde, parce que c'est vrai que c'était un grand joueur, mais ça a aussi été un personnage assez sulfureux. Thomas, vous étiez fan de Maradona ?
Comme beaucoup de gens de ma génération qui sont admirateurs de sport et de foot en général, effectivement, Maradona, c'était une icône à la fois au travers de ce qu'il a fait en termes de football et de sa vie qui a été avec des hauts et des bas. Mais c'était quelque part quelqu'un qui a réussi à transcender le foot au-delà des aficionados de ce sport-là. Et il va dans tous les pays. Et ça sera toujours une icône. Et aujourd'hui, quand on voit les réactions des gens qu'il y a eu, c'est absolument invraisemblable. C'est vraiment quelqu'un qui a dépassé les frontières de son sport, qui est pourtant déjà un sport qui est le plus planétaire au monde. Mais quand on parle de Maradona, on ne parle pas que de foot. On parle d'un gamin qui a grandi dans une maison sans eau, sans électricité. On parle de quelqu'un qui s'est engagé pour des causes. Et c'était une icône et ça restera quelque part un génie de ce sport.
Et surtout parce qu'il a battu les Anglais.
Ouais, voilà. Judith, je vous demande pas votre avis, si c'est très sexiste ma remarque. C'est très sexiste ma remarque, mais bon, c'est comme ça. Thomas Porte, vous vouliez attirer l'attention sur le cas d'une aide-soignante, qui est menacée d'expulsion.
Ouais, c'est absolument. Son nom commence à un peu circuler sur les réseaux et on a vu cette décision absolument scandaleuse. Elle s'appelle Lydia Vera. Elle est aide-soignante dans un EHPAD en Isère, donc elle a travaillé depuis le début de la crise, elle est en France depuis 2019, elle a été remerciée par le gouvernement par une prime de 1 000 euros, et aujourd'hui on a découvert dans une décision que le préfet voulait l'expulser du territoire. Dans une situation de pandémie où on manque de salariés, où cette personne elle a travaillé souvent sans protection, puisque l'État n'a pas assuré sa protection, elle a été défaillant, et aujourd'hui la République remercie cette personne en expulsion du territoire, c'est absolument scandaleux, je crois qu'on ne peut pas accepter ce genre de décision, et c'est incompréhensible dans la période qu'on traverse. Je crois qu'il faut que Gérald Darmanin, plutôt que de saluer le préfet allemand pour son maintien de l'ordre, ferait mieux de se mêler de ce dossier et de rappeler à l'ordre le préfet de ne pas expulser cette personne-là qui sauve des vies au péril de la sienne et elle doit rester sur le territoire national français.
Alors, je ne sais pas s'il l'a félicité, hein, le préfet allemand, puisqu'il a demandé une enquête sur ce qui s'est passé place de la République. Et,
Ici,
je ne
il
sais pas
lui a
si ça
apporté son
dé...
soutien.
au préfet allemand?
Oui.
Oui,
Oui?
c'est tout
Oui.
à fait. C'est dans l'ordre des choses.
Très bien.
Ah oui, on voulait éviter que la place de la République devienne un squat permanent, évidemment, il fallait prendre des mesures. Après, qu'il y ait eu des excès policiers, certainement. Pour le reste, évidemment, la gestion de crise est très, très compliquée. Et le cas de cette personne dont vous parlez est tel, là aussi, c'est tout l'échec de la politique d'immigration, de relations internationales de notre pays, qui ne sait pas effectivement valoriser, reconnaître et sécuriser la présence de personnes dont le pays a besoin, notamment dans le monde de la médecine. Il y a beaucoup de médecins qui viennent de Roumanie et d'ailleurs, et qui mobilisent des énergies folles, des moyens considérables, avec des drames humains sur une gestion de flux migratoires qu'on n'arrive pas à gérer, quoi.
Ouais, bon, on va pas
Ça,
refaire le débat parce qu'on a
oui.
beaucoup parlé hier, hein. Oui.
Oui, juste un mot quand même. La raison pour laquelle il y a beaucoup de médecins qui viennent de Roumanie et d'ailleurs, c'est que la gestion de notre démographie de santé a été complètement délirante et ce depuis des décennies, et que par ailleurs, les médecins sont tellement mal payés quand ils travaillent à l'hôpital français qu'effectivement, on a du mal à trouver des médecins natifs de France. Mais
Absolument.
ça n'est pas un bien ni pour le système,
Non.
ni pour les médecins roumains qui sont sous-payés, ni pour la Roumanie qui les perd.
Non, absolument. Jacques Myard, on va passer, je vais laisser le coup de gueule de Judith en dernier, parce que je pense que ça peut faire un débat un petit peu plus long. Jacques Myard, vous, c'était un coup de gueule.
Oui, c'est un coup de gueule parce que je suis extrêmement frappé par le fait que toutes les mesures que prend le gouvernement, en réalité, il est totalement dans la main de la technostructure. Par exemple, si vous prenez la question des commerces non essentiels, très franchement, il a avalisé une liste que les services lui ont préparée, mais on n'a jamais défini ce que c'était un commerce non essentiel, l'article 37.1, ce qui est une faute d'ailleurs, il n'y a pas de motivation juridique. Et lorsqu'on va plus loin, même dans les annonces du président de la République, il y a maintenant 2 jours, c'est une suite d'objectifs technocratiques qui sont en incohérence. On va prendre l'affaire, par exemple, des jauges pour le culte, il vous dit 30, et puis ensuite, tout le monde s'aperçoit qu'effectivement, que dans une grande église, 30, ou dans une grande synagogue, ou dans un grand temple, ça n'a pas de sens. Donc, il y a réellement un problème de mainmise de la technostructure sur l'action gouvernementale. J'en veux pour preuve, d'ailleurs encore ce matin, dans le saumon du Figaro, on va le nommer, Covid, 2 points, c'est haut fonctionnaire de l'ombre. Et donc, on est gouverné par une technocratie de l'ombre qui n'est pas pilotée par le pouvoir politique. Et ça, c'est un problème qui, à mon sens, pose le problème démocratique. Je l'ai déjà constaté. Moi-même, venant de la diplomatie et étant fonctionnaire de l'État dans une vie très antérieure, je sais quel est le pouvoir des services. Mais le politique doit commander aux fonctionnaires. Et c'est
Ah oui,
là
mais
où il y a un problème réel dans ce gouvernement. Qui suit un peu, je dirais, la technocratie au fil de l'eau. Et ça peut
Enfin,
pas marcher.
ils sont eux-mêmes tous hauts fonctionnaires, non? C'est
Alors, il y a ça aussi, surtout quand il y avait un premier ministre qui n'est que lui-même, c'est-à-dire un
bah
préfet.
oui.
Donc, on voit très bien qu'on est dans quelque chose qui est adémocratique, c'est-à-dire que le suffrage universel est relégué au deuxième rang par rapport à ces
Alors,
sachants qui sont quelque part irresponsables.
On va en reparler parce que c'est vrai. Alors c'est une phrase de Sophie de Menton que j'avais bien aimée. C'est tout le monde ne chausse pas du 38 ou du 39. Tout le monde ne chausse pas du 39. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne les églises, parler de 30 personnes, ça n'a pas tellement de sens. Et on a l'impression que parfois ils ne descendent pas dans la rue. Ils ne vont pas voir comment les choses
Mais
se
Valérie, il n'y a pas que
passent
pour les églises.
réellement.
Il
Ouais.
n'y a pas que pour
Non.
les églises.
Non, non, mais
Je
c'était un exemple que j'ai donné. Mais on va y revenir dans un instant. Petite pause, les infos et on se retrouve après avec vos témoignages 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant, quelques secondes seulement, pour commenter l'actualité, les nouvelles annonces ou les précisions de Jean Castex après l'allocution du président de la République. On va parler de ces malades qui on va contraindre à l'isolement, la dette Covid qui va payer. Bref, beaucoup de sujets aujourd'hui. Et puis les Français ont le moral au plus bas. Dites-nous si vous avez le moral. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour commenter l'actualité avec vous, cette actualité toujours marquée par le Covid, par un moral des Français au plus bas, un Premier ministre qui s'exprime en ce moment même pour préciser un certain nombre de choses. Il fait le service après-vente très clairement du président de la République. On en parle avec vous ce matin avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte, Thomas Porte, conseiller politique, et vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Quelques mots sur ce que disait Jacques Myard, tout de même, pour compléter sur cette technostructure qui pèse sur les décisions, Judith Weintraub.
Oui, il a raison, mais il faut garder en tête, à mon avis, que la première démission est celle du politique. Je prends des exemples concrets. C'est le politique français qui a inventé l'attestation de déplacement qui n'existe nulle part au monde. Une fois que cette bêtise, cette absurdité a été créée, alors évidemment, après, derrière, c'est ce qu'on appelle la cellule interministérielle de crise de Matignon, qui est sous la direction de Nicolas Revel, directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex, qui se met à turbiner. Mais la bureaucratie, l'administration, la haute fonction publique se met à turbiner pourvu qu'on lui en donne l'occasion. Ce qui est par exemple aussi le cas avec les commerces dits non essentiels. Alors au passage, je précise que, parce que j'ai posé la question, on fait dans le Figaro Magazine qui paraît ce soir un voyage dans l'absurdie française pour essayer de comprendre les origines de tout ça. Donc on voit la capacité de nuisance de cette fameuse cellule de Matignon. Une fois que les produits non essentiels, qui est une nomenclature administrative qui existe dans le droit français, a été posé sur la table, bah vous avez des gens qui se sont précipités pour savoir si le mascara, les chaussettes, les slips étaient essentiels et non essentiels. Mais tout ça vient, c'est le politique qui a ouvert la brèche.
J'en suis moins convaincu, Judith. Connaissant l'administration depuis 30 ans, je le vois, y compris dans la ville de Maisons-Laffitte, il faut bien voir que l'administration, elle a un dogme qui est l'aide à la décision. Et donc, elle arrive avec quelque chose sur lequel le politique, parfois, va vite, va dire « bon, d'accord, on roule ». Et c'est ça le problème. Et donc, je suis...
Bah oui, le problème, c'est le politique qui dit « bon, d'accord
». Oui, mais alors bien sûr, il est responsable. Mais il faut voir que qui tire les ficelles, c'est un peu ça. C'est toute cette technostructure à laquelle j'ai appartenu. Parce que moi, je sais que j'ai bloqué le prince un jour aux affaires étrangères, qui était Roland Dumas, le ministre, en lui proposant ensuite des solutions. Donc, on voit bien que c'est ce couple-là, il y a un moment où le politique doit taper du poing sur la table en disant
« je veux ça et pas autre chose ».
On est d'accord, absolument. Judith, votre coup de gueule.
Alors, moi, mon coup de gueule, c'est la volée de bois vert, voire les insultes que s'est pris M. Dupond-Moretti après la publication de son patrimoine par la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique. Il s'est beaucoup enrichi. Je rappelle que sa mère était femme de ménage, que son père était ouvrier métallo, que son père est mort quand... Éric Dupond-Moretti avait 4 ans, qui s'est fait tout seul, qui a fait de brillantes études, qui est ensuite devenu un très bon avocat. Tout ce qu'il a gagné, il l'a gagné. Et je trouve que ce déferlement de haine, de jalousie, de hargne, est malheureusement terriblement français. Parce qu'on reste un pays où on déteste non seulement l'argent, mais aussi la réussite. et où il est tout à fait admis de dire que quand on est né dans un milieu pauvre, on n'a pas d'autre choix que de rester pauvre. Et le mérite individuel n'est pas une valeur en France.
Oui, c'est alors déferlement de haine. Je sais pas si moi ce que j'ai vu, c'est surtout le Nouvel Observateur, qui enfin l'Obs comme on l'appelle aujourd'hui, qui a publié cette information en détaillant le patrimoine d'Éric Dupond-Moretti, en précisant le nom de la voiture, etc., etc. Il y a eu beaucoup de gens pour dire que finalement, ce que vous dites, c'est-à-dire voilà, ça a été un avocat très en vue, qui s'est enrichi, qui a fait son boulot, qui a volé l'argent à personne. Et je trouve que, de ce que j'ai lu, il n'y a pas eu énormément de lynchage suite à ça. Mais peut-être que je n'ai pas vu les mêmes choses que vous.
Julie, tu as raison,
oui. Valérie.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a la jalousie le commentaire.
On en parlait tout à l'heure, notre ami Porte nous disait bravo à Maradona, parce que là, en foot, bon, ça se passe en Argentine. C'est vrai qu'il part de très bas, comme Dupond-Moretti, mais le drame, c'est qu'on livre en peinture aujourd'hui les ministres, etc., par le striptease permanent. Et ça, il y a un moment que véritablement la Halde regarde d'où vient cet argent et défaire ensuite au procureur s'il y a malversation, je suis d'accord, mais cette livraison permanente des politiques en disant « ah ben il a ci, il a ça, etc. », c'est lamentable et je crois qu'il y a un problème réel en ce qui concerne cette loi qui livre en pâture tout le patrimoine des uns et des autres.
Oui, il faut rappeler que cette loi a été faite pour qu'on note le patrimoine des élus à l'entrée, ceux qui sont à l'entrée pour montrer qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel quand le mandat se termine.
Alors Thomas, personnel est un délit.
Oui, mais si vous ne savez pas avant ce qu'il y a, comment
justifier ? C'est au procureur et à la Halde de le faire. Il faut que ça reste quand même un peu confidentiel et que ça ne soit pas toujours la justice de l'opinion.
Thomas Porte.
Oui, je crois qu'il y avait une exigence de transparence. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle politique de la justice va mener Éric Dupond-Moretti et qu'il ne s'enrichisse pas en tant qu'élu politique. C'est ça, aujourd'hui, la réalité.
Il n'y a pas de risque.
C'est ça, la vraie question. Maintenant, effectivement, il y avait une exigence de transparence. Elle doit s'appliquer à tous. Maintenant, moi, ma préoccupation, ce n'est pas le patrimoine d'Éric Dupond-Moretti qu'il a acquis au long de sa carrière privée. Ouais. Ça le regarde, c'est ce qu'il a fait dans sa vie antérieure. Maintenant, moi, ce que je vais regarder, c'est les actions et les engagements politiques qu'il va prendre dans un gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est ça, aujourd'hui, le véritable sujet.
Non, mais ça, on est d'accord. Mais je trouve que Judith avait tout à fait raison de souligner et d'indiquer cette espèce d'esprit français, de jalousie, de suspicion. Michel Taube, très détestable.
Si l'Obs a décidé de publier le patrimoine de Dupond-Moretti, c'est justement parce qu'il ne s'intéresse pas qu'à à sa politique. Et comme le dit fort justement Judith, ça va même plus loin. Parce que en coulisses, beaucoup de personnes qui ont réussi en partant du bas de l'échelle sociale et à réussir très haut, souvent vous confessent que c'est très, très difficile d'être reconnu pleinement dans cette aristocratie parisienne d'élite qui sont là depuis longtemps. Et ça renvoie d'ailleurs aussi à ce dont on parlait avant, c'est que, évidemment, c'est pas que l'administration qui met en musique ce que les politiques décident, puisque les politiques sont eux-mêmes issus, pour la plupart, de la haute administration. Et quand même, le haut fonctionnaire qui est en même temps un politique et qui nous met aujourd'hui dans la panade avec des mesures complètement alambiquées d'une complexité effarante, il s'appelle le grand intendant de la République, qui est Jean Castex, le Premier ministre. Il est qui, lui ? C'est un politique ou un haut fonctionnaire ? Le problème, c'est qu'il est les deux.
Et que Michel, tu peux aller jusqu'à Marabout à l'Élysée, hein ?
Bah oui.
Oui. Jusqu'à Marabout à l'Élysée, parce que le Macron, on ne peut pas dire qu'il a une expérience politique du terrain.
Non, alors,
non, il en a aucune.
Jean Castex est en train de s'exprimer et de préciser un certain nombre de choses. Donc il dit on ne doit pas parler de déconfinement. Il a dit également, alors là c'est Véran qui dit que l'épidémie n'est pas derrière nous, la seconde vague n'est pas terminée. Donc ils sont en train de modérer un petit peu le message qui était plutôt optimiste du président de la République, qui laissait entrevoir une sortie un peu heureuse de ce confinement, enfin sans jamais avoir prononcé ce mot. Mais là, visiblement, il y a une sorte de reprise en main et du ministre de la Santé et du Premier ministre. J'essaye de suivre un petit peu en même temps ce qu'il dit.
Ce matin, il y a plein de médias qui reprennent l'interview d'Arnaud Fontanet dans Le Parisien. Qui est donc un médecin de l'Institut Pasteur et de la Pitié-Salpêtrière, oui. Et qui dit qu'il n'y aura pas de retour à une vie normale avant l'automne 2021 si la vaccination est large dans le pays. Donc, il commence à y avoir effectivement ce discours politico-médiatique incessant qui est de nous dire on n'en a pas fini, on en a pour des mois et des mois et des mois, et on ne donne aucune perspective concrète et on n'explore pas de politique alternative. Enfin, il y a un climat qui devient insupportable.
Michel, oui. On a oublié que la grippe espagnole a duré 2 ans. Et là, on est au début de la deuxième année. Ça, c'est le premier point. Et puis, Valérie, on voit très bien, on avait les quinzaines commerciales. Maintenant, on a les quinzaines Covid. C'est-à-dire que chaque quinzaine, on va avoir des annonces, des reculs, etc. Moi, je ne le reproche pas au gouvernement. Parce que là, une politique un peu au fil de l'eau, malheureusement. Ce que je reproche au gouvernement, ça a été, dans le discours de Macron, l'infantilisation des Français in fine, avec un pathos surabondant. Ça, c'est
Jacques, je vous trouve bien gentil de ne pas le reprocher au gouvernement. Excusez-moi de prendre encore cet exemple, mais en Suède, ils ont fixé un cap une bonne fois pour toutes, dont ils n'ont pas varié. Alors, ils changent un peu le degré des contraintes, mais finalement, il y en a très, très peu, alors que nous, ça n'arrête pas de changer avec des mesures parfaitement arbitraires. Je répète que la plaisanterie de l'attestation de déplacement est une exclusivité française mondiale. Oui. Personne au monde ne le fait. L'histoire des commerces, de séparer les commerces entre commerces essentiels et soi-disant non essentiels, c'est un truc qui existe en Belgique, au Pays de Galles, en Irlande, chez nous, mais c'est à peu près tout, etc. Les restaurants sont en train de rouvrir dans de nombreux pays. Alors arrêtez de dire que la France fait comme elle peut et aussi bien que les autres, c'est faux. Pour des résultats, je le répète, du point de vue sanitaire, donc franchement, on n'a pas à se réjouir.
Judith, vous avez cité 4 États, mais il y en a tellement d'autres qui ont bouclé complètement, donc il faut relativiser.
Pas tellement d'autres qui ont bouclé complètement.
Israël a complètement fermé, la Corée a complètement fermé.
Israël, et c'est une catastrophe, ils ont pris l'épidémie vraiment de plein fouet, c'est un des pays où la gestion a été la plus catastrophique.
Alors, Jean Castex vient de déclarer le 20 janvier, nous pourrons envisager la levée du couvre-feu s'il n'y a pas eu de rebond épidémique. Voilà ce qu'il dit ce matin. Il envisage également de lever justement cette attestation de confinement de sortie en journée. Mais il dit nous devons avancer étape. Enfin, c'est un peu ils avancent sur des œufs. Hein. Nous devons avancer étape par étape et donner de la visibilité, mais nous ne pourrons franchir chacune de ces étapes que si la situation épidémique nous le permet, si l'évolution favorable que nous observons se poursuit. Alors, il y a beaucoup de si.
Alors, pourquoi avoir décidé maintenant que les stations de ski, en tout cas les remontées mécaniques, ne pourraient pas rouvrir avant la mi-janvier? Pourquoi avoir pris cette décision maintenant?
Michel Taube.
Oui, moi je veux dire 2 choses. Je pense que au lieu de nous sortir tous les jours les chiffres uniquement qui sont liés véritablement directement à la contamination, il devrait commencer à sortir les chiffres sur les dommages collatéraux en matière de santé pour tous les Français. Olivier Véran a dit l'autre jour que le nombre de dépressions avait quasiment doublé. Les dommages collatéraux, je ne parle même pas de l'aspect économique, sur le plan santé, sont dramatiques, dramatiques. Il y a certaines maladies chroniques comme le cancer et d'autres qui malheureusement augmentent fortement parce que le climat général et les problèmes que cela impacte sur la chaîne sanitaire pour gérer ces maladies chroniques est absolument dramatique. Et ça, on n'en parle pas du tout en termes de suivi, de statistiques, alors que les professionnels de santé le savent.
Mais on fait quoi?
La santé, ce n'est pas que le traitement du Covid, c'est une approche beaucoup plus globale.
D'accord, mais je vous pose la question.
Il faut qu'ils prennent en compte d'autres critères et qu'ils modèrent davantage la surpression qui est faite actuellement exclusivement sur le Covid et qui, en plus, impacte, encore une fois, sur le plan strictement sanitaire, la santé de nos concitoyens. Et puis après, en termes de politique de santé publique, c'est sûr que plutôt que de manier uniquement le curseur confinement, déconfinement, avec des protocoles administratifs d'une complexité effarante, il faut commencer effectivement à être plus dans la prévention, dans l'anticipation, dans la protection des personnes à risque, dans une communication.
Depuis le début, Thomas, on a une crise du système hospitalier. Depuis le début. Ouais. Donc, la première chose qu'on fait, c'est renforcer l'hôpital. Mmh. Et ça, je n'en entends toujours pas parler. J'étais très, très surprise de voir Emmanuel Macron, à la fin de sa prise de parole l'autre jour, nous annoncer, c'était le chapitre des bonnes nouvelles. Vous savez, il a conclu sur les bonnes nouvelles. Alors, bonne nouvelle, l'hôpital a su se réformer. Ah bon ? C'est pas du tout ce que j'entends, moi. C'est pas du tout ce que j'entends en enquêtant auprès des gens qui bossent dans le système hospitalier. À part que les médecins et les gens qui voient les malades en général ont pris le pouvoir sur le tiers de personnel hospitalier qui ne rencontre jamais un malade, ça j'ai vu, ont pris le pouvoir sur les ARS, les agences régionales de santé, bref, ont pris le pouvoir sur la démocratie, de force d'ailleurs, ça s'est pas passé gentiment, ça a été une affirmation brutale. Des médecins et des personnels hospitaliers. Par exemple, ils ont refusé que soit décrété un nombre arbitraire d'annulations d'opérations. Parce qu'on voulait, l'État voulait faire ce coup-là. Les agences régionales de santé sur ordre de l'État voulaient dire, bien, à partir de maintenant, vous allez annuler 80% des opérations qui ne sont pas liées, qui ne sont pas liées au Covid. C'est complètement aberrant. Oui. C'est le médecin qui dit non, on annulera ce qu'il faudra annuler.
Alors attendez, Thomas, on n'a pas entendu Thomas Porte sur le sujet.
J'ai envie d'entendre une journaliste du Figaro dire que le système de santé en France est déficient. Ça fait quand même des années que les personnels soignants hospitaliers alertent sur un manque de moyens, sur des fermetures de lits, des suppressions de postes. On nous avait dit, Emmanuel Macron avait dit pendant la première vague, rien ne sera plus pareil, il faut sortir des pans entiers de la société, de l'économie de marché. Il avait promis des ouvertures de lits. On a continué à fermer des lits pendant l'été quand même. C'est aussi ça la réalité de la politique de santé dans ce pays. Et aujourd'hui, on n'a pas eu un mot pour les soignants, effectivement. On n'a pas eu un mot sur la question des embauches. On n'a pas eu un mot sur la question des moyens. Donc, on continue à avoir la même politique de santé, uniquement vue via ce qu'on a dit, nous, un tableur Excel. Et ce n'est absolument pas aujourd'hui la réponse à apporter. Et on nous reparle encore de tester et d'isoler. Mais je rappelle quand même qu'on a voulu faire ça, à juste titre, sûrement pendant la première crise. Mais faute de moyens face à un état déficient, on n'a pas réussi, comme ont fait les Allemands, par exemple, à détecter les gens qui étaient malades et les isoler de façon extrêmement importante pour couper la circulation du virus. Et donc aujourd'hui, on essaye de... Ouais. Je termine là-dessus, ouais. on essaye de recommencer. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a pas de politique de santé publique qui est de nature à répondre à la crise. Si on ne met pas plus de moyens, on n'y répondra pas.
Mais c'est quoi plus de... C'est quoi, attendez, juste une instant, c'est quoi plus de moyens? Parce que moi, ce qui me fait marrer, c'est quand on compare avec les autres pays. Les Français ne sont pas les Allemands, les Allemands ne sont pas les Suédois. On est tous très différents.
Monsieur Porte a tout à fait raison. Lorsqu'il y a eu le Ségur de la santé, qui était en fait un Ségur de l'hôpital. Les médecins de ville, les infirmiers, les pharmaciens et tous les professions qui sont en amont et en aval de l'hôpital ont dit on a besoin de notre Ségur. Et le gouvernement a promis un Ségur de la santé publique. Et Daniel Guilherme, que je voudrais citer, le président de la Fédération nationale des infirmiers, me disait hier, on l'attend toujours, ce Ségur de la santé publique. Il n'y en a pas. Donc, la réponse, Valérie, c'est pas d'augmenter le salaire, par exemple, des infirmiers hospitaliers. C'est de donner à la médecine de ville et de campagne. C'est donner aux médecins de ville. C'est demander de donner aux infirmiers, aux pharmaciens, les moyens de prévenir en amont, de suivre de plus près les personnes, par exemple, à risque, pour leur dire « attention, attention, en fonction de vos comportements, vous risquez de vous mettre en danger ». C'est ça, une politique de santé
publique.
Mais non,
il faut aussi augmenter les salaires, je suis désolée.
Il faut aussi augmenter les salaires, bien sûr.
Il faut aussi augmenter les salaires des soignants en ville et des infirmiers en ville. Il ne faut pas s'occuper que de l'hôpital.
Le système hospitalier français, il a deux caractéristiques. Il est bureaucratique, je répète. Ouais. Un tiers des salariés d'hôpital ne voient jamais un malade, c'est encore un record du monde, et il est paupérisé. Nos médecins, nos soignants hospitaliers, nos infirmières sont plus mal payés qu'à peu près tous les autres en Europe.
Oui, alors, je dis personnellement, oui, Valérie, vous m'entendez ?
On vous entend, allez-y, Jacquemire.
Oui, je voudrais dire que cette situation qui est née directement de la nécessité de respecter le 3% de déficit public, il ne faut jamais l'oublier, hein. C'est quand même un problème réel, parce que de
non,
ce côté-là…
L'Allemagne dépense la même
chose. Oui, l'Allemagne, elle se fait… Judith, l'Allemagne se fait des couilles en or avec sa monnaie sous-évaluée, etc. Donc, regardez un peu la réalité en face. Et toute la zone euro a profité essentiellement à l'Allemagne. Il faut quand même le savoir. Et vous êtes battu pour le roi de Prusse. Quand vous ne reconnaîtrez pas ça et que vous êtes toujours des Eurobéas convaincus, vous allez dans le mur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la hiérarchie dans les hôpitaux, c'est effectivement quelque chose que j'ai connu. Hein. J'ai présidé notamment la fondation de l'hôpital des courses. Et ben, je peux vous dire qu'entre la direction administrative et la direction réelle des médecins, ça a malheureusement toujours été une bagarre. Et ça, c'est malheureux. Mais c'est vrai que les ARS ont voulu supprimer des lits. Hein. J'ai vu qu'autour, par exemple, de Maison Lafitte, il y a eu 4 cliniques qui ont été fermées. Et un jour, le directeur local de l'ARS m'a dit « Je voulais fermer l'hôpital des courses depuis 10 ans. Maintenant, je reconnais qu'il y a une nécessité de maintenir des hôpitaux de proximité. » Et donc, c'est ça qui est en cause. C'est une vue administrative, effectivement, de l'hôpital public sur des critères qui ont été arrêtés à Bruxelles, respecter les 3% de déficit public.
Mais non,
c'était bien avant, c'était début des années 90.
Ah bah écoutez,
c'est depuis que nous, je suis désolé, Judith, de ce côté-là, le Figaro doit faire sa révolution intellectuelle. Vous êtes en retard.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite avec vous, avec une annonce très importante de Jean Castex. Je vous laisse méditer pendant la pub. Il suggère que 2021 soit l'année de la gastronomie en France. Voilà, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Oh là, il y a du bruit. Je ne sais pas chez qui il y a du bruit, mais il y a du bruit. C'est chez Judith. Donc, je vous le disais, le Premier ministre, parmi les annonces qu'il a faites ce matin, donc il a dit qu'il était beaucoup trop tôt pour parler de déconfinement. Il a dit également que le télétravail resterait la règle et doit être le plus massif possible. Et donc, il a annoncé que 2021 serait l'année de la gastronomie en France. Alors, c'est un sucre pour calmer peut-être la colère des restaurateurs. Je trouve cela, moi je suis absolument sidérée. S'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, appelez-nous pour nous dire, parce qu'ils sont dans un état quand même de détresse, de solitude, pas d'aide, ni des banques, ni des assurances, etc. Ils vont crever et on va leur dire on va vous faire votre année de la gastronomie.
Je peux pas manquer de suggérer aux auditeurs de Sud Radio de lire l'interview de Guy Savoie à la une de mon journal Opinion Internationale aujourd'hui même, et qui est un homme en colère.
Et je nous avons eu Jean-François Piège hier qui était en colère également sur notre antenne. On a entendu également plusieurs chefs, certains au bord des larmes, dont un que j'ai vu dire qu'un représentant de l'UMI à Marseille, donc l'Union des métiers de la restauration, dire qu'un assureur avait dit à un restaurateur, bah, écoutez, faites vos calculs, si vous vous suicidez, vous gagnerez plus d'argent. Donc, ce sont des choses totalement inadmissibles. Ils sont en colère. Ils sont, au-delà de la colère, ils sont totalement désespérés, que ce soit les grands restaurants, mais aussi les petits bistrots, les petits entrepreneurs. Donc, dire on va vous faire l'année de la gastronomie en 2021, je trouve ça presque insultant.
Insolent.
Insultant.
Oui, c'est même indécent même.
Oui, indécent.
C'est indécent, oui. Valérie, oui. Juste un mot. Quand vous nous rapportez tous les propos de Castex maintenant, par rapport à ce qu'a dit le président de la République, c'est à se demander si les deux hommes se parlent. Parce que vous avez un premier ministre qui essaye d'ouvrir les voies de l'espoir, qui essaye d'ouvrir un certain nombre de voies d'espoir, et vous avez la douche froide derrière. Donc, il y a un vrai problème sur une hiérarchie au sommet de l'État qui ne marche pas ensemble. Et donc, ça pose un problème politique majeur. Et maintenant, pour revenir à la fermeture des restaurants, autant les terrasses, moi j'ai pu le constater, les uns étaient parfois les uns sur les autres. Mais dans des salles, on peut très bien réglementer avec des normes strictes. Et on aurait pu permettre au commerce de restauration de réouvrir.
Oui. Un auditeur dit « Le discours de Jean Castex aussi illogique que celui de Macron. Donc pour les vacances de fin d'année, on a le droit de se déplacer de région en région et de partir à l'étranger. Par contre, bars et restaurants fermés, on comprend pas bien tout ça. Il y a effectivement toute la question des... Alors le ski reste interdit à Noël en France, a dit Jean Castex. Alors il y a toute la problématique de ceux qui vont se déplacer et aller en Suisse. Ce sont les Suisses qui se réjouissent, les Autrichiens qui, a priori, vont rouvrir leur station. On a un auditeur avec nous, on a Jean de Longjumeau. Bonjour Jean, vous êtes restaurateur, on vous connaît bien.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai oublié d'écouter Jean Castel, qu'est-ce qu'il nous a dit de beau ?
Eh ben, il vous a dit un truc formidable, c'est que l'année prochaine, ce serait l'année de la gastronomie.
Ah, youpi !
Youpi !
Ah oui, il a dit ça, on est vraiment
Vous êtes content ? Vous êtes content, vous êtes au taquet ?
Comme on ne sera plus beaucoup, on pourra faire la fête de la gastronomie. Non,
vous en êtes où, vous, aujourd'hui ?
Je ne sais pas. On est entre résigné, dépité, triste, enfin bref, tout un tas de paramètres dans la tête qui fait que ça bouillonne dans la tête et puis dans les cuisines. Quoi.
Ouais.
Donc, non, mais il y a plein d'éléments... On pourrait disserter pendant beaucoup de minutes parce que, les Français pensent qu'on nous aide. Oui, effectivement, au final, il va y avoir certaines aides. Simplement, il y a tellement de cases à remplir et à pas se tromper. Ils ont un gros problème qu'ils veulent pas traiter, qui est un problème de trésorerie pure, c'est-à-dire c'est les congés payés. Ouais. Parce que les congés payés ont continué à courir depuis le mois de mars. Et donc, c'est une sortie de trésorerie très importante. Et il a fallu, là, pour l'instant, essayer de convaincre et d'expliquer à la ministre du Travail, qui a l'air de rien comprendre au sujet, et c'est pas un vain mot de dire ça, et c'est pas méchant, mais c'est la réalité. Et enfin, le Premier ministre a des échos qu'il y a un problème. Donc oui, il y a un gros problème. Donc il va falloir payer des congés payés pendant une période où on a pratiquement zéro recette, quoi.
Pas de recette.
Donc on n'a pas d'argent, donc les salariés c'est bien, simplement les petits restaurateurs qui sont aussi en activité comme nous, on n'a pas de salaire, c'est-à-dire on a une vie à côté du restaurant et on n'a pas de salaire pour payer l'eau, le gaz, l'électricité, donc on n'a pas de salaire depuis le mois de mars quoi globalement.
Ouais.
Donc la saison c'est sympa, là maintenant effectivement. On a l'Espagne qui a ouvert ses restaurants, donc tous les copains qui sont en frontalier avec l'Espagne, ils vont tous faire la fiesta en Espagne. Hein. Et puis, quand même, ouais. La grosse interrogation...
L'Espagne, il y a quand même des contraintes, des jauges à 30%. Enfin, il y a des, quand on regarde un peu à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est pas non plus formidable, c'est pas youplaboum partout.
C'est mieux que la fermeture totale.
Oui. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si les gens font la fête, et ils vont faire la fête à Noël et à Jour de l'An, il n'y a rien de garanti pour le 20 janvier. Hein.
Non, non.
Il n'y a rien de garanti. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois, ce qui est logique, qu'on déconfine, donc les gens se retrouvent. Donc, on sait que c'est dans les milieux, dans les relations familiales que les contaminations se font au maximum. Nous, on a aucune raison de nous fermer parce que finalement, je me disais en regardant le président de la République expliquer plein de choses intéressantes, mais je me dis finalement une réunion de 10 personnes, on va dire une réunion familiale dans un restaurant, on va faire la police et on va les obliger à se laver les mains, à porter le masque et tout le protocole sanitaire qu'on a mis en place. Or, si vous faites la même chose dans une réunion familiale entre le papy, la mamie, les parents, les enfants, tout le monde va retirer le masque et tout le monde va se contaminer beaucoup plus violemment que dans un lieu sécurisé, professionnel, avec des protocoles. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on se pose quand même la question de... Il y a deux poids, deux mesures dans ces histoires. Il y a deux poids, deux mesures.
Vous avez entendu qu'il n'était pas du tout question que papy et mamie mangent la bûche avec vous. Ouais, ils seront la cuisine. Bah ça,
ils ne peuvent pas les contrôler. Donc, ça va être très...
Ça va être compliqué. Merci, Jean, de nous avoir appelés. Un auditeur dit... Castex est formidable. On pourra aller à la montagne pour respirer l'air. Je n'invente rien. Mais sans restaurant, sans bar, sans remontée mécanique, sans pique ou stou verte. À ce niveau de foutage de gueule, je n'ai plus... les mots, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre la logique
mais
de tout cela.
Et surtout, pourquoi avoir pris la décision maintenant, alors que je rappelle que l'une des constantes des interventions de Jean Castex, aussi bien que d'Emmanuel Macron, c'est on fera le point régulièrement.
Ben oui,
qu'on fasse le point le 15 décembre, par exemple.
Je pense que le pouvoir sous-estime, comme il l'avait fait avec les Gilets jaunes, en octobre, novembre 2017, 2018, il sous-estime l'état d'exaspération de la société française parce que là, ce n'est plus les gilets jaunes qu'on va avoir à gérer, c'est vraiment les forces économiques de notre pays qui vont finir par se lever contre, on le voit d'ailleurs un peu dans le sud de la France, ça a déjà commencé dans certains territoires où les commerçants n'en peuvent plus, mais c'est un point de suffocation économique, humaine et sociale. Et donc là, moi, ce que personnellement je sens, c'est plus une intuition qu'autre chose. Mais honnêtement, le président de la République, le premier, joue avec le feu et joue avec les Français. Et ça ne va pas pouvoir tenir jusqu'au 20 janvier sans que ça finisse par éclater.
Je confirme ce que vient de dire Julie et Michel, c'est qu'on a un ras-le-bol qui peut aboutir à une révolte grave à terme. J'ajoute une chose, c'est que c'est là où on voit l'incohérence de la technostructure, c'est que permettre l'ouverture des commerces non essentiels, refuser la même règle aux commerces de restauration alors qu'ils peuvent adopter des règles extrêmement strictes, interdire les sports d'hiver alors qu'on est en plein air et que l'on peut très bien régler l'accès aux remontées mécaniques, c'est là où ça ne va pas. Et c'est d'une incohérence totale que ce gouvernement est incapable de gérer, enfermé dans sa technocratie et sa cécité politique. Hein.
Sur le ski, je crois que le problème, ce n'est pas tellement le ski en lui-même, les remontées mécaniques.
Ce sont
les hôpitaux de la région, effectivement. Et bien sûr, vous avez raison. Et puis, les hôtels, les restaurants qui seront obligés d'être ouverts pour accueillir cette population. Mais vous avez raison, Judith, c'est ce qu'expliquait l'hôpital dans cette région. En disant, on ne va pas pouvoir autoriser parce que nous, on n'aura pas les moyens, en plus des gens qui vont se casser les jambes, d'accueillir des gens qui seront Covid. Les Français ont le moral au plus bas. On l'a appris ce matin. C'est un rapport de l'INSEE. Le moral des Français est tombé en novembre à son plus bas niveau depuis la crise des Gilets jaunes. Les ménages sont beaucoup moins optimistes sur leur situation financière future et la proportion des ménages qui estiment qu'il est opportun de faire des achats importants a baissé fortement. Donc les magasins vont rouvrir, mais les Français vont pas avoir envie d'acheter pour X raisons. D'abord parce qu'ils n'auront pas l'argent et puis parce qu'ils n'en ont pas envie. Thomas Porte, j'imagine que ça ne vous étonne pas, cette baisse de niveau du moral des ménages.
Ça ne m'étonne pas, parce qu'on est dans une situation qui est quand même catastrophique avec un gouvernement qui va de catastrophe en catastrophe. Et j'aimerais pas être à la place de Jean Castex ce matin, parce qu'il doit assurer le service après-vente de quelque chose qui est invendable. Donc c'est un peu compliqué dans sa position. Mais il y a une enquête qui est sortie effectivement aussi qui a été commandée par Europe 1 et l'IFOP. 87% des jeunes disent aujourd'hui qu'ils vont être les sacrifiés de la crise. Donc c'est aussi ça qui est inquiétant, puisqu'on on va avoir des conséquences sanitaires, économiques et sociales qui sont terribles. Et on a des milliers de salariés qui vont se retrouver dans une précarité. Vous avez tous lu les chiffres des associations qui disent 10 millions de pauvres. Je lisais les chiffres, par exemple, des étudiants, parce que c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement. Hier, à Nantes, 3 tonnes de denrées alimentaires, 1000 étudiants qui font la queue devant la banque alimentaire à Strasbourg pour accéder à des denrées alimentaires. Et on a des gens qu'on n'avait jamais vus dans ces structures-là, des commerçants, des patrons de restaurants qui sont aujourd'hui, et votre auditeur vient de le dire, ils n'ont plus de salaire. Donc, il y a des gens qui ont plus et qui sont en train de crever la gueule ouverte dans ce pays. Donc, on est en train de transformer ce qui était une crise sanitaire extrêmement importante, et elle est difficile à gérer puisqu'elle est inédite, mais ça va être une crise humanitaire si on ne prend pas les dispositions pour aujourd'hui empêcher que des millions de
citoyens. C'est exact.
Et les gens sont inquiets sur leur avenir et il faut les comprendre, parce que vous avez des plans de licenciement dans les grands groupes et dans les petites structures, et on sait que demain, ça va être des conséquences en cascade et en échelle, et on va avoir une pauvreté, une paupérisation qui va s'accélérer si on n'a pas des décisions politiques qui sont aujourd'hui prises et on n'a pas de réponses qui sont apportées. Vous avez Emmanuel Macron s'est quasiment auto-félicité de tout ce qu'il avait fait. Et on voit bien que ça ne prend pas. Il y a une défiance à l'égard de ce qui est en train d'être fait qui est absolument très importante. Et je rejoins ce qui a été dit. On joue avec le feu, parce que quand on a un rapport de défiance avec le politique, avec les décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État, ça peut basculer derrière vers le pire. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est en train de se passer dans le pays. Il y a des éléments très inquiétants. Et quand on souffle sur des braises qui sont déjà incandescentes, ça peut très mal tourner.
Oui, rajouterais qu'il y a une partie des gens qui sont complètement oubliés, qui sont les producteurs. Je vais prendre un exemple qui peut vous paraître anecdotique, mais c'est quand même des dizaines de milliers d'emplois. Les gens qui font des fleurs coupées et des plantes en pot, des plantes décoratives en pot ou à planter dans le jardin, ils sont considérés comme des agriculteurs, donc leur activité ne s'arrête pas, donc ils n'ont pas le droit au chômage partiel, mais ils n'ont plus de circuit de distribution. Il n'y a plus de fleuristes. Il n'y avait plus de fleuristes jusqu'à samedi et on ne pouvait pas acheter les plantes en pot. Donc en fait, ils produisaient et ils fichaient à la poubelle le résultat de leur production, le tout sans aide. Donc ça peut paraître dérisoire, mais c'est un drame absolu pour toutes ces professions.
Que nous avons maintenant des remontées, y compris dans des villes où il y a un niveau de vie, où il y a des gens assez riches, des petites entreprises, des petits patrons qui ne peuvent plus produire et qui ont des difficultés pour nourrir leur famille. Donc, je confirme cette paupérisation qui est réellement une cocotte minute, parce que ça ne peut pas durer. Et donc, si on reprend le rétablissement des circuits avec des normes extrêmement strictes, c'est là où il y a une incohérence. C'est qu'on voit très bien qu'on n'a pas les mêmes normes partout, pas les mêmes protocoles, et surtout ça met en péril non seulement les étudiants, mais bien au-delà, tout un tas de familles, de gens qui comptaient sur la production, le travail de la petite entreprise pour nourrir leur famille. Donc c'est les TPE, etc.
Petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant. Qui va payer cette dette, cet endettement colossal? On va en parler également avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, il nous reste assez peu de temps. Une très bonne nouvelle quand même annoncée ce matin par Jean Castex. Les sports nautiques pourront reprendre dès samedi. Pardon, mais ça me fait rire.
Nouvelle incohérence.
Vous pourrez donc surfer, naviguer, plonger, nager. évidemment, dans la limite des 20 km et en respectant les 3 heures. Mais on est quand même au moins de...
C'est 20 km après avoir pris sa voiture si on n'a pas le bonheur d'habiter en bord de mer, ou c'est 20 km en partant de chez toi?
Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est... Je vais appeler Jean Castex, mais en tout cas, c'est bien les sports nautiques au mois de décembre, même s'il fait beau dans le sud de la France. Je suis pas sûre que ce soit... Oui, il y a l'aviron. Certes, vous avez raison. Je me moque.
Est-ce que les sports épiques fonctionnent, Jacques Mia?
Écoute, c'est pas si facile que ça, parce que avec mon préfet qui est intelligent, parce que les chevaux ne peuvent pas rester confinés, parce qu'ils deviennent fous. Donc, on a mis en place un système où les propriétaires de chevaux pouvaient les promener pendant une heure, sinon les chevaux devenaient fous et on a eu des problèmes. Et ça a été fait, on a donné des autorisations spéciales avec l'aval de la préfecture, parce que c'est une nécessité.
Il n'y a que des réponses locales, il n'y a que des solutions locales.
Bien sûr.
Oui. Il n'y a que des solutions locales.
Sauf qu'encore une fois, je rappelle que hier, François Baroin expliquait, en tout cas en ce qui concerne les vaccins, que l'État ne s'appuyait absolument pas sur les maires pour organiser la vaccination. Donc visiblement, on tient assez peu compte du local. Moi, je voudrais qu'on parle quand même un petit peu économie et tout cet argent qui va être distribué, cette dette qui ne cesse de croître. Tout à l'heure, Marc Touati nous disait...
C'est quoi ? C'est une dette perpétuelle, ce qui est tout à fait différent. Regardez ce que fait l'Angleterre. La Banque d'Angleterre prête à l'État et ensuite elle dira terminé, c'est jamais remboursé. C'est ce qui s'est passé sous la 4e, sous le début de la 5e, jusqu'à la loi de 73 et le traité de Maastricht. Donc, il ne faut plus gérer l'économie dans des critères qui sont obsolètes. Et donc, il faut inventer autre chose. Même Monsieur Artus de Naxixis a passé à la trappe tous les critères de Maastricht et il faut revenir à ce qui va être une dette perpétuelle, c'est-à-dire des jeux d'écriture. Et il faut arrêter de parler de dette. Et quand il y a des crétins qui disent qu'à longueur de temps, c'est nos enfants qui vont payer, c'est faux.
Emmanuel Macron vous a entendu. Puisqu'il sort son carnet de chèques à l'infini, il n'arrête pas. Non, mais
le problème, c'est qu'on continue. Un Bruno Le Maire, il continue de parler de dette. Et on dit toujours c'est un ratio par rapport au PIB. Mais il faut arrêter. Regardez ce que fait la Banque d'Angleterre. Elle prête directement à l'État et c'est terminé. Et donc, c'est effectivement les articles 122, 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui sont obsolètes.
Oui, Thomas Porte, vous êtes peut-être moins optimiste que Jacques Mia.
Je suis assez circonspect sur la communication autour de la dette, puisqu'avant la crise, on nous disait « attention à la dette, c'est vos enfants qui vont la payer », c'est ce qui a été dit. Pendant la crise, on nous a dit « il n'y a plus de dette », et maintenant, on commence à nous ressortir la question de la dette. Et même des économistes comme Alain Mie, qui ne sont quand même pas de mon bord politique, parlent de dette perpétuelle. En vérité, la dette de l'État français ne sera jamais remboursée. Une dette de l'État, elle continue à rouler. C'est ça aujourd'hui. Maintenant, qui va payer la crise ? Moi, je vais vous le dire, ce sont les salariés. On voit aujourd'hui des plans de licenciement qui sont absolument catastrophiques. Il y a quand même eu un exemple cette semaine d'une entreprise qui s'appelle Danone, qui a versé des milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires et qui va laisser 2 500, 3 000 salariés sur le carreau. Donc, c'est ça aujourd'hui aussi la réalité. La question de savoir comment on se relève, c'est comment on conditionne l'argent public qu'on donne à des entreprises, comment on met en contribution les plus riches et comment on sort de la paupérisation des millions de salariés, des millions de petits patrons, de petites entreprises qui aujourd'hui ont le couteau sous la gorge. C'est la question de répartition des richesses dans ce pays. Mais la question de la dette, c'est une fausse réponse. La dette de l'État, elle va rouler, elle est perpétuelle et personne ne la remboursera. Et même la BCE permet aujourd'hui d'annuler des dettes. Donc, c'est un faux problème. C'est un discours absolument... C'est un discours culpabilisant. Et aujourd'hui, c'est absolument, on ne doit plus parler de ça. C'est pas ça le problème.
Non, moi, je pense que la reprise économique se fera rapidement quand on sera sorti de la crise sanitaire. Mais notre ami a raison, Thomas a raison, c'est qu'il y a un passage très difficile aujourd'hui. Donc, il faut avoir une politique d'aide directe à tous ces salariés qui vont être sur le tapis.
Oui. Judith, oui.
Alors, moi, je suis moins optimiste parce que, comme je ne crois pas, comme Thomas Porte ou comme Jacques Mia, qu'on puisse développer un modèle français complètement en dehors de l'Europe, en dehors du monde. Qu'il ne suffit pas de faire fonctionner la machine à billets, mais qu'on est dans un monde où on se compare et que si la France est à la fois la plus endettée et la moins apte à reprendre une activité économique normale, comme ça a été le cas dans toutes les crises précédentes, parce qu'on a ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux, qui sont beaucoup plus puissants que partout ailleurs en Europe, à un moment, il faut trouver des gens pour nous prêter. Et à un moment, il n'y en aura plus. Et il n'y en aura plus, en tout cas.
La BCE, c'est la planche à billets.
Bah voyons, la planche à billets.
Regardez-moi, voilà. Judith, Maastricht, sortez de ce corps. Maastricht, sortez de ce corps.
Mais Maastricht, c'est votre corps.
Michel Taube, vous avez raison.
L'Europe, c'est nous. C'est
mais
pas...
bien sûr, l'Europe, c'est nous. C'est les États. C'est pas, je dirais, la technocratie européenne et des traités obsolètes. Mais même Arthus de Natixis le dit.
Moi, je suis perplexe devant les tweets que je vois. Madame Merkel veut convaincre les pays européens d'interdire les séjours au ski jusqu'au 10 janvier, mais l'Autriche n'est pas d'accord. Bataille à venir. Donc ça promet des...
poser sa médiation.
Voilà. Et il y a beaucoup d'humour. Padre Pio dit « Les refuges de haute montagne ouvriront au printemps, mais les chaussures de randonnée resteront interdites. » Voilà.
Et Madame Merkel, elle n'a pas le pouvoir de faire ça.
Veut convaincre, elle n'a pas dit interdit, elle veut convaincre, parce qu'effectivement, où est la logique si on ferme en France, qu'on ouvre en Allemagne ou en Suisse et qu'on ouvre en Autriche, le virus va circuler. Déjà, cette notion d'ouvrir les frontières...
Mettre la rubalite sur les vallées, sur les flancs de montagne.
Merci à tous les quatre pour ce débat. Restez à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, vous allez retrouver André Bercoff. Très bonne journée.